effectivement, les traitements intégrés sont importants. Alors, on va passer au dernier exposé de cette soirée. On a parfaitement le temps, là, c'est parfait. Puis on pourra avoir un peu de temps pour discuter aussi. Brigitte, je te passe la parole. Merci.
Merci, Didier, de m'avoir invité pour vous présenter ce bilan sanitaire de l'interdiction de fumer dans les lieux publics suite au décret Bertrand du 15 novembre 2006 qui était venu modifier la loi Evin. Donc, nous allons voir ce décret du 15 novembre 2006 et ce décret fait suite à deux lois anti-tabac en France. Tout d'abord, la loi Veil de juillet 1976 qui a été le premier texte de loi relatif au contrôle du tabac, imposant l'inscription de la mention « abus dangereux » sur les paquets de cigarettes, l'interdiction de fumer dans certains lieux à usage collectif et une première réglementation de la publicité en faveur du tabac. La loi Evin du 10 janvier 1991 a, elle, renforcé ce dispositif législatif en favorisant la hausse du prix des cigarettes, en posant le principe d'interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif, en interdisant toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et en autorisant les associations impliquées dans la prévention du tabagisme à se constituer partie civile devant les tribunaux. Le décret d'application, qui a été le 29 mai 1992, a fixé les conditions d'application de cette interdiction de fumer. Alors, le décret du 15 novembre 2006 a lui fixé l'interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, accueillant du public ou constituant des lieux de travail, dans les établissements de santé, l'ensemble des transports en commun, les écoles, collèges, lycées, publics, privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, la formation, l'hébergement des mineurs. L'application s'est faite en deux temps, 1er février 2007, au niveau de tous les lieux que nous venons de citer, à l'exception des lieux dits de convivialité. Et c'est le 1er janvier 2008 que la loi a été appliquée dans les CHRDC, cafés, hôtels, restaurants, discothèques et casinos. Un certain nombre de dispositions ont complété ce décret. Tout d'abord des circulaires au niveau des divers ministères du gouvernement afin de faciliter la compréhension et l'application de cette nouvelle interdiction de fumer. Ensuite, un arrêté du ministère de la Santé définissant les caractéristiques de la signalisation apparente obligatoire devant être apposée dans tous ces lieux afin de rappeler l'interdiction de fumer d'une part et, en cas d'infraction, le risque pour le fumeur d'amende prévue pour une contravention de troisième classe. Autre disposition, un programme gouvernemental pour renforcer l'aide à l'arrêt et c'est ainsi que le nombre de consultations d'aide à l'arrêt du tabac a augmenté au niveau du pays, qu'un forfait maximum de 50 euros annuels remboursé par la Sécurité sociale pour l'accompagnement médicamenteux a été fourni, en sachant que ce forfait a été porté à 150 euros pour les femmes enceintes depuis le 1er septembre de cette année, mais que par contre ce forfait a été supprimé pour la varenicline. Et il y a eu également renforcement des plateformes téléphoniques et Internet. Des emplacements fumeurs sont autorisés, mais leur installation doit répondre à des normes strictes de ventilation, fermeture automatique, non-lieu de passage, superficie maximum 35 mètres carrés, aucune prestation délivrée avant une heure après la fin de l'utilisation. En sachant que ces emplacements resteront interdits dans les établissements de santé, dans les lieux scolaires, sportifs, de formation, d'hébergement, accueillant des mineurs de moins de 16 ans. Leur création est soumise au choix du responsable d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène et de sécurité. Alors, quelles sont les sanctions qui peuvent être encourues en cas d'infraction au décret ? D'abord, ces infractions doivent être constatées par un inspecteur du travail ou un fonctionnaire de contrôle assimilé et doivent faire l'objet d'un procès verbal. Alors, le fumeur qui fume hors emplacement réservé est passible d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, cette amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Le responsable des lieux, s'il offre un emplacement réservé non conforme aux normes, si la signalisation rappelant l'interdiction de fumer n'est pas conforme, ou s'il favorise, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction, eh bien ce responsable est passible d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, pouvant aller jusqu'à 750 euros. Alors, quel est l'objectif de ce décret ? L'objectif de ce décret, c'est la protection vis-à-vis du tabagisme passif des non-fumeurs, mais aussi des fumeurs. Alors, qu'est-ce que le tabagisme passif ? C'est le fait d'inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs, particulièrement dans les espaces clos. Alors, ces différents courants, je pense que vous les connaissez, mais bon, juste pour rappel, le courant principal est le courant de fumée inhalée, tandis que le courant secondaire est le courant qui s'échappe à l'extrémité de la cigarette et que le courant tertiaire est le courant exhalé par le fumeur. Le tabagisme passif, c'est le courant latéral plus le courant tertiaire qui s'échappe donc dans l'atmosphère. La fumée de tabac, vous le savez, elle contient plus de 4000 substances chimiques. Elle est très toxique. La fumée émise dans l'atmosphère est donc le cumul de ce courant secondaire et du courant tertiaire. Il est quantitativement beaucoup plus important que le courant directement absorbé par le fumeur. Ce courant, il est également plus riche en nicotine, en substances cancérigènes, en monoxyde de carbone, du fait des phénomènes de pyrolyse à l'extrémité de la cigarette. Ainsi, le tabagisme passif est dangereux autant pour le non-fumeur que pour le fumeur. Quels sont les effets de l'exposition au tabagisme passif ? L'exposition aiguë de quelques heures expose à de la toux, irritation oculaire, crise d'angoisse chez des sujets à risque, voire infarctus du myocarde, syndrome de Raynaud, crise d'asthme. Quels sont les effets de l'exposition chronique ? Un certain nombre d'effets en jaune sont certains significatifs en termes de santé publique. C'est le risque de cancer du sinus de la face multiplié par 2, le risque d'accident vasculaire cérébral multiplié par 2, d'accident coronarien risque augmenté de plus 25%, risque de cancer du poumon augmenté de plus 26%. D'autres effets sont possibles et on regardera essentiellement le risque de symptômes respiratoires chroniques, d'asthme professionnel, de crise d'asthme. Chez la mère exposée à la fumée, de donner naissance à un enfant de plus petit poids de naissance, risque de retard de croissance intra-utérin, risque enfin de cancer du sein augmenté, de cancer du col de l'utérus, d'artérite et puis d'inconfort de façon globale. Juste pour rappeler les risques de l'exposition du nourrisson et du jeune enfant, qui sont sûrement des grandes victimes du tabagisme passif, avec un risque de développer rhinopharyngite, bronchite, asthme, voire mort subite du nourrisson. Alors, l'évaluation des effets sanitaires de cette interdiction de fumer dans les lieux publics a donné lieu à un certain nombre d'études et en particulier de l'instauration d'un indicateur mensuel et de deux grandes études que nous allons voir, Dilater et Evencor. L'indicateur exposition tabagisme santé, qui a été mis au point par le professeur Dodenberg, a comporté plusieurs types d'indicateurs, dont des indicateurs sur les conséquences sur la santé, avec une évaluation qui a compilé des informations de janvier 2007, donc juste avant l'entrée en vigueur du décret, et janvier 2008. Alors, ces données montrent que chez les salariés du secteur CHRDC, on observe une diminution des symptômes respiratoires et des symptômes oculaires allant de 13 à 67% selon les symptômes. L'Observatoire au secours de l'Institut national de veille sanitaire a lui montré une diminution des admissions pour infarctus du myocarde chez les moins de 65 ans, entre 11 et 19%, avec une tendance à la baisse du taux d'admission aux urgences pour accident vasculaire cérébral. L'évaluation sanitaire du décret sur la fonction cardiovasculaire nous conduit d'abord à voir une des caractéristiques de ce risque par rapport à l'exposition à la fumée de tabac. Ce risque cardiovasculaire survient et disparaît à très court terme en fonction de l'exposition. Et par ailleurs, il peut se produire sur des artères que l'on va qualifier de normales et donc survenir sur des personnes très jeunes. Donc, cet impact a été étudié en premier par l'étude Dilater, qui a étudié la dysfonction endothéliale et qui a été couplée à une autre étude, ARR, sur le risque de formation de caillots. L'étude Dilater a été réalisée dans le service du professeur Jean-Pierre Cambou au CHU de Toulouse-Rangueil et il avait pour objectif de mesurer une amélioration de la fonction endothéliale après l'application du décret chez des sujets non fumeurs auparavant très exposés au tabagisme passif sur leur lieu de travail, bar, restaurant, discothèque, et qui donc n'étaient pas protégés avant l'application de la loi. La méthodologie a porté sur deux groupes, bien sûr non fumeurs, un groupe exposé sur le lieu de travail mais non exposé à domicile, et un groupe témoin non exposé ni au travail ni au domicile. Avant et 4 mois après l'application du décret d'interdiction, la fonction endothéliale étant mesurée par le flow mediatine dilatation, mesure au niveau de l'artère brachiale, au-dessus du pli du coude, par échographie, du diamètre artériel avant et après occlusion. Chaque sujet étant évalué à T0 et à T1 par un même opérateur. Les résultats sont exprimés en pourcentage. Un flow mediatine dilatation supérieur à 7% étant considéré comme normal. Alors, voici les résultats. Dans le groupe exposé, le flow mediating dilatation médian à T0 était bas, 5,8%. À T1, il se normalise puisqu'il devient au-dessus de 7,2. Et en parallèle, on peut voir que le pourcentage de sujets ayant une dysfonction endothéliale à T0 était de 70%. Ce taux passant à 34% après l'application du décret. Donc, au total, Dilater vient confirmer que l'arrêt de l'exposition restitue quasiment la totalité de la fonction endothéliale dans le tabagisme passif. Couplée donc à cette étude, l'étude ARR sur la formation des caillots au niveau de la réactivité plaquettaire, de l'hémostase et de l'inflammation. Le contexte est que le tabagisme passif augmente la réactivité plaquettaire, l'inflammation et diminue la fibrinolyse. L'objectif était donc de comparer la fibrinolyse au travers de la réactivité plaquettaire, l'inflammation systémique et les propriétés des sanguins, des caillots sanguins chez les non-fumeurs avant, après l'application du décret. La méthodologie était similaire à celle de Dilater avec un certain nombre de biomarqueurs mesurés. les résultats. AT1, dans le groupe exposé au tabagisme passif au travail, on note une nette diminution de la rigidité des caillots et une meilleure réponse à la fibrinolyse. Par contre, pas de différence entre les deux groupes pour la réactivité plaquettaire ni les marqueurs de l'inflammation. Donc, la conclusion est que l'hypofibrinolyse induite par l'exposition au tabagisme passif est corrigée par l'interruption de l'exposition, suggérant comment la loi interdisant de fumer pourrait prévenir la survenue d'accidents cardiovasculaires chez les travailleurs exposés au tabagisme passif. Deuxième groupe d'études au niveau du cardiovasculaire, c'est l'étude Evencor, évaluation de l'impact de l'interdiction de fumer sur les syndromes coronariens aigus. L'objectif de cette étude étant de repérer et mesurer si le nombre d'hospitalisations pour syndrome coronarien aigu a diminué de façon significative après la date d'application du décret. Cette étude a compris deux volets, Evencor USIC et Evencor PMSI. Evencor USIC a été une étude longitudinale en deux phases. Phase 1, 15 novembre et 15 décembre 2007, et phase 2, 3 mars, 3 avril 2008. Elle a analysé le statut tabagique, actif et passif, des patients admis pour syndrome coronarien aigu dans 32 unités de soins intensifs cardiologiques. Voici les résultats de cette étude. Donc ici, nous avons les admissions pour syndrome coronarien aigu et les admissions pour autres motifs. Si on cumule les deux phases, on peut voir que globalement, on a deux fois plus de fumeurs admis dans les USIC pour syndrome coronarien aigu que admis pour un autre motif. Au niveau de la phase 2, le nombre de fumeurs passifs est à peu près identique dans les admissions pour syndrome coronarien aigu et pour autres motifs. Entre la phase 1 et la phase 2, on peut voir que le nombre de fumeurs passifs est moindre à la phase 2 quand il s'agit d'admission pour syndrome coronarien aigu. Par contre, ce pourcentage est à peu près identique entre les deux phases dans le cadre des admissions pour un autre motif. Donc, ceci reprend ce que je viens de vous dire. Par contre, cette étude n'est pas démonstrative en ce qui concerne l'impact de l'interdiction de fumer sur les syndromes coronariens aigus. Donc, beaucoup était attendu de ce deuxième groupe d'études, Evencor PMSI, donc qui faisait le relevé à partir des bases PMSI des admissions pour syndrome coronarien aigu à partir de janvier 2003. On peut voir sur cette courbe, on peut observer une diminution lente mais linéaire de ce nombre d'admissions pour syndrome coronarien aigu. Toutefois, on s'attendait à observer une véritable cassure aux deux périodes février 2007 et janvier 2008, ces deux cassures n'étant pas observées. Alors, bien sûr, ça a été une déception et l'analyse de l'absence de cette cassure qui était fortement attendue a fait ressortir que, en fait, déjà, comme vous l'avez vu, depuis plusieurs années, on observait une diminution régulière d'hospitalisation pour syndrome coronarien aigu et qu'en France, depuis la loi Evin en vigueur depuis 1992, il y avait déjà une diminution de l'exposition au tabagisme passif. Autre facteur, l'application du décret en deux temps, les limites de l'outil PMSI et l'absence de prise en compte d'autres facteurs comme décès non hospitalisés, autres interventions de prévention, etc. Troisième volet de notre bilan, c'est l'évaluation au niveau de la fonction respiratoire. L'étude dilataire a montré en parallèle que les travailleurs de bar contactés par téléphone ont indiqué qu'ils respiraient mieux, que leur aptitude à faire du sport était meilleure. L'indicateur mensuel du tabagisme passif a également montré une amélioration des symptômes respiratoires chez les salariés du secteur CHRD, diminution de l'essoufflement, de la toux, de la respiration sifflante, de l'expectoration, de la rougeur oculaire et de l'irritation des yeux. Alors, au total et pour conclure, ces évaluations de l'impact du décret d'interdiction sont en cohérence avec ce que l'on connaît des effets délétères scientifiquement démontrés du tabagisme passif. Dans d'autres pays comme l'Irlande, l'Italie, l'Écosse, qui a une législation proche de la nôtre, un impact de cette interdiction au niveau des événements coronariens a été beaucoup plus marqué, moins 11% d'infarctus en Italie, moins 14% en Irlande, moins 17% en Écosse. Et donc, je vous le répète, en France, pas tout à fait la même ampleur du fait de l'application en deux temps et puis surtout de la préexistence de la loi Evin. En fait, cette interdiction est plébiscitée par plus de 80% des Français. L'interdiction est globalement respectée, acceptée par les exploitants du secteur et des clients. Mais il faut quand même que nous restions très vigilants aux clubs privés, aux bars à chicha, aux fumoirs non conformes, aux terrasses, et vous savez comment elles sont source actuellement de polémiques. Et voilà, donc ce décret nous semble, à côté des augmentations de prix, de l'interdiction de vente du tabac aux mineurs, une avancée majeure en termes de santé publique. Je vous remercie.
Et on a le temps pour une ou deux questions, puis après on va clore, parce que oui, voilà, très bien, il y a deux questions. Excellent.
Oui, je trouve ça des chiffres qu'on attendait. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en milieu psychiatrique fermé, il y a malheureusement tout à faire, puisque les patients fument dans des fumoirs vitrés fermés, où la plupart du temps la fumée est mal... Il n'y a pas du tout. J'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait simplement des VMC et pas d'extracteurs, et où on retrouve dans ces fumoirs des taux de CO épouvantables, quoi. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou est-ce que quelqu'un sait quelque chose à ce sujet-là pour faire avancer les obligations, parce que les directeurs de centres spécialisés ne savent pas quoi faire.
Il y a des centres où il est quand même interdit de fumer. Les patients peuvent aller fumer dans les cours, et on sait que dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont très souvent organisés autour de cours. Bon, alors la cour devient un espace fumeur, c'est certain. Et de toute façon, en milieu psychiatrique, on nous dit bien qu'il y a des patients qu'on ne peut pas sevrer de leur tabac et qu'ils acceptent le tabagisme. Moi, je fais des consultations dans un hôpital psychiatrique sur Albi, et on travaille plus dans de la réduction de consommation que dans du sevrage réel. C'est pas facile, le biopsychiatrique, et puis les psychiatres, mais il y en a sûrement ici, mettent un frein quand même à cette prise en charge du sevrage tabagique auprès de leurs patients. Enfin, moi en tout cas, c'est le ressenti que j'ai.
Juste pour compléter, le décret s'applique aussi en milieu psychiatrique, il n'y a pas d'exception. Donc ils sont tenus à interdire ce genre de fumoir normalement, et ça se fait de moins en moins, je pense, enfin. Et puis là aussi, proposer une prise en charge de façon systématique. Tout comme à l'USIC, ça se fait maintenant. Tout patient fumeur, enfin nous à Nancy, Tout patient fumeur, consultation de tabacologie. On ne lui demande même pas trop son avis. Hein. C'est comme s'il avait un diabète, consultation de diabétologie. Tout patient fumeur, consultation de tabacologie, mise en place d'un traitement, gratuité du traitement à l'hôpital, réduction de consommation, pourquoi pas, en attendant, hein, en réduction de risque, mais prise en charge et pas de tabac à l'intérieur. Non.
Il y avait encore une question qu'on va pas...
Concernant l'interdiction de vente aux mineurs, il y a un détournement classique qui est fait puisqu'ils arrivent en bande, et c'est vrai pour l'alcool aussi, avec un majeur qui achète donc pour les autres. Est-ce que cet aspect-là est connu, je pense, et est-ce qu'il y en aura un écho ou une réflexion d'y apporter une réponse? L'achat se fait quand même en pratique, bien qu'il y ait interdiction officielle.
Alors effectivement, il y a une interdiction, et comme beaucoup de lois en France, il n'y a pas de contrôle, donc il n'y a pas de répression. Donc c'est vrai qu'une majorité, et puis Yves Martinet pourra peut-être dire, et qui est président du CNCT et qui se bat un peu contre ça, je crois que c'est de l'ordre de 80% des buralistes qui ne respectent pas.
Bon, ben, on va remercier tous les participants, et ces débats étaient intéressants, même si on aurait aimé avoir un peu plus de participants. Mais enfin bon, ce sera pour l'année prochaine, et c'est petit à petit qu'on arrive à avancer sur ce sujet qui nous concerne aussi quand on s'occupe de polyconsommateurs, bien entendu, mais c'est probablement la suite de nos coopérations. Voilà, merci pour tous d'avoir été attentifs. Et puis je remercie tous les orateurs aussi.